Ce jour dédié pour la version de l'âme de Rechavia ben Esther. On les voit. La question de Aaron sur l'euthanasie. Comme dit une fois le Rav Brandt, c'est un grand ami de Chacham à Paris, qui a un petit accent un peu, il est suisse d'origine, suisse-allemand. Alors, il dit l'euthanasie, l'état nazi. Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas passer de l'euthanasie à l'état nazi. C'est un jeu de mots qu'il fait lui-même. Et c'est vrai. Il y a une valeur absolument extraordinaire que donne la Torah à la vie. Aucune chose au monde a autant de valeur que la vie. Si ce n'est le nom de Dieu. Il y a des fois, d'après la Torah, qu'on doit, pour le sanctifier le nom de Dieu, on doit passer outre la vie. Mais toute la Torah est repoussée pour sauver une vie, à part les cas spéciaux de Kiddush Hashem, de sanctification du nom de Dieu. Et chaque seconde de vie a une valeur inestimable que nous ne pouvons absolument pas imaginer. Parce que si on s'imaginait, on deviendrait fou, quoi. C'est simple. Tu as très peu de temps à vivre sur Terre. Autant ça a l'air long, en fait c'est très court. Et l'impact de chaque seconde, il est infini. Il est dans le monde de Olam Haba, qui est un monde infini, le monde de Dieu. Éternel, infini. Donc c'est un rapport de 1 à infini. Combien c'est? C'est inestimable, inimaginable. Maintenant, quelqu'un qui est malade, au point où il ne réagit plus, on va dire un légume, d'accord? Il vit. Lui raccourcir la vie est un assassinat à tout égard. Assassinat. Il est interdit d'après Halakha de toucher quelqu'un qui agonise. Pourquoi ? Parce qu'il est extrêmement faible. Khazal dit, c'est comme une flamme qui est en train de s'éteindre. Vous avez maintenant une bougie, elle a faim. Il y a une flamme très 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 petite. Rien que tu touches la flamme, elle s'éteint. Quelqu'un qui agonise est extrêmement faible. Maintenant, tout effort qu'on lui fait subir rapproche sa mort d'une fraction de seconde, d'une seconde, de 10 secondes, d'une minute, mais même d'un millième de seconde. Il devait vivre un certain temps, tu as raccourci sa vie. Raccourcir la vie signifie tuer. C'est un assassinat. Donc, quelqu'un qui agonise, on ne le touche pas. Je me souviens, je ne sais pas cette fois, à l'époque, c'était à la Halakha, j'étais un tout beau, tout neuf dans la Torah, et une proche parente qui agonisait, toute la famille, bon c'était ma grand-mère, d'accord, la femme du monsieur pour qui je fais ce cours, les leçons de l'âme pour qui je fais cela, et elle était très froide, évidemment quand quelqu'un commence quand il est en train de mourir, il agonise, alors d'abord les pieds deviennent froids, après les mains, etc., tout l'âme elle commence à quitter, elle vient ici un moment et oh, ça sort comme ça. Alors, elle avait beaucoup une grande progéniture, alors toutes ses filles et tout ça lui frottaient, comme ça, pour la chauffer, comme ça. Elle est morte comme ça. Interdit.
Considéré comme s'ils l'ont tué.
Hein ? Alors, ils n'ont pas fait ça, je te tue avec un poignard, comme ça, d'accord. Ils ne savaient pas. C'est d'une bonne intention. Mais d'après la race, c'est interdit. Il faut pour ça que je fais ce cours, pour que les gens le sachent. Oui.
Reste comme ça.
Ouais, reste comme ça, exactement.
Mais pour les gens, ça peut être une c'est horrible, c'est-à-dire on laisse une personne agoniser de notre famille.
Qu'est-ce que tu veux faire ? Donc, on parle de quelqu'un maintenant qui est en train de mourir, d'accord ? Ouais. Elle n'a plus rien à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
C'est semblant.
On lui bouge les pieds, on lui bouge les mains, à quoi ça sert ? Je ne comprends pas. Si. Il va mourir.
Savoir à quel niveau elle agonise, parce qu'il y a
un
ambulancier.
Ok.
Il y a une chose qui s'appelle l'agonie. D'accord ? On commence justement, les membres commencent à être froids, le souffle commence à être rauque. Il y a des signes qui s'appellent agonie.
Non, mais là, c'est de la vie, disons, c'est entre guillemets une belle mort, on va dire.
Très belle mort.
Là, on parle de aussi agoniser.
Attends, moi je suis en train.
Dans un immeuble en feu, on sort un brûlé ou n'importe quoi. Quelqu'un qui fait une crise cardiaque, il agonise.
Ok, alors on doit le sauver. Attends, je vais expliquer. Là, je suis en train d'expliquer maintenant, j'illustre le fait que la vie est une valeur inestimable par le fait qu'on n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui agonise. Tu vas, alors, sinon il va mourir. Un peu après, un peu avant, un peu après, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. Ça change absolument tout. Un légume, quelqu'un maintenant, il est un légume depuis 10 ans, d'accord ? Il fonctionne grâce aux machines. Quelqu'un vient et retire la prise. Il a tué. il a tué. La Torah interdit cela. Parce que nous ne savons pas la valeur de la vie. Même quelqu'un qui ne fait rien, il y a une histoire une fois, je ne sais plus les détails, mais il y a eu un cas pareil ici à l'hôpital, et le type est venu en rêve après à la personne qui a enlevé, tu sais pas, tu m'as raccourci de 2 jours ma vie, tu peux pas imaginer le dommage énorme que c'est, terrible, 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 terrible. Une histoire de ce genre-là, je ne sais pas exactement le détail. Nous ne sommes pas les propriétaires de la vie, c'est Hachem qui est propriétaire de la vie, on n'a en aucun cas le droit de raccourcir la vie, c'est de l'assassinat. Évidemment, c'est moins grave que de prendre un couteau et égorger quelqu'un dans la rue, mais c'est quand même un assassinat.
Si la personne elle est froide et qu'on pense que ça y est, elle est morte, on lui ferme les yeux.
Alors ta question est bonne aussi. Au niveau maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la mort ? Le critère aujourd'hui accepté par la médecine comme moment de la mort n'est pas le même que celui de la Torah. Tant qu'il y a d'activité, même pas dans le cerveau, dans le cortex, alors pour nous, la personne est complètement vivante. Bien qu'elle ne respire pas, elle a le corps arrêté. Il faut, la lacha, si je me souviens bien, il faut attendre, je crois c'est 30 secondes après, que le cortex est complètement arrêté, et il n'y a plus rien, plus aucune activité cérébrale, et plus le corps est complètement arrêté et les poumons. Là, on permet par exemple, donc on pourrait fermer les yeux ou autre chose, on considère la personne comme morte. Ne comptez pas sur moi pour ça au niveau de la lacha. Plutôt que je me trompe en 30 minutes et 30 secondes, et c'est quand même extrêmement grave. D'accord ?
Si dans l'erreur, je ne sais pas qu'elle n'était pas encore morte, mais je vais fermer les yeux, et ça veut dire en quelque sorte ça qu'il a.
Oui, absolument. C'est interdit de fermer les yeux de quelqu'un qui est en train d'agoniser.
Je ne l'ai pas fait.
Alors, c'est pas exprès. Ok, pas exprès.
J'ai cru l'assassinat.
Alors, j'ai dit, c'est une sorte de. Mais bon, on ne savait pas. Je t'ai dit, c'est pas comme si tu prends une mitraille, tu commences à mitrailler dans la foule et tu ne savais pas. C'est pas la même chose. Exactement, c'est clair. Mais c'est considéré comme un raccourcissement de vie, et c'est interdit.
C'est vrai qu'on doit faire le schéma à quelqu'un qui meurt devant nous.
Quelqu'un qui est en train d'agoniser, il y a toute une lecture de texte à faire, et c'est entre autres Shema Israël, et c'est bien, si possible, que quand il meurt, à ce moment-là, on dise Echad. On fait le mot Echad du mot de Shema Israël.
Excusez-moi, ça veut dire quoi alors agoniser ? Parce que là, on parle de morts qui sont quand même.
Quelqu'un maintenant, il est encore en vie. Du point de vue de la médecine maintenant, il est en phase qu'on appelle d'agonisement. Ça veut dire que nous savons que dans les minutes qui suivent, il sera plus vivant. Une question de quelques minutes ou de quelques heures, peu importe. Il est en phase d'agonie. Voilà. Alors si c'est le cas de quelqu'un qui est brûlé et puis il est en train de mourir, et je ne sais pas, quelqu'un lui a enfoncé un couteau dans le cœur, l'agonie ne va pas durer quelques heures, elle dure quelques minutes. Mais il est agonisant aussi. J'ai pas dit qu'on va le sauver. Attends, lentement. Quelqu'un m'attend qu'il n'y a plus rien à faire. Terminé. Il est dans son lit, et il est vieux, et bon, alors on n'a pas le droit de le toucher. Maintenant, il est clair qu'on doit tout faire pour sauver, vu que ce que j'entends en train de dire, c'est maintenant d'illustrer à quel point la vie est importante à chaque seconde, donc à plus forte raison, on doit essayer de rallonger la vie. C'est clair. De sauver la vie. Je suis précis, pas rallonger, de sauver la vie. Donc quelqu'un qui est malade, qui est accidenté, etc., on doit tout faire. Il n'y a pas de discussion. Shabbat, si on a un risque de danger de mort, sans, une fois ma fille, elle a fait la vaisselle Shabbat, elle avait quel âge, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas, d'accord, et puis il y a une assiette qui s'est coupée, tac, elle s'est coupée comme ça, elle s'est coupée le petit doigt, mais profondément, jusqu'à l'os, d'accord, on voyait un peu de l'os comme ça. Bon, alors dans le quartier, il y a Baruch HaShem, je recommande ça, c'est le seul quartier quoi, je crois qu'il y a cela, mais je recommande à faire, c'est l'admirant de Boston, qui a fait en sorte qu'il y ait un organisme qui s'appelle la Chovesh, l'infirmier, d'accord, il y a une ambulance dans le quartier. T'appelles, en 30 secondes, ils sont là. Alors, on a appelé. Je crois que c'est moi qui ai appelé, ou bien on l'a cherché. D'après la Lacha, quand il y a un Safek Yuvar Nefesh, c'est bien que ce soit un Tamil Chacham qui le fasse, pas un petit enfant. Au contraire, pour montrer qu'il y a une mitzvah maintenant de sauver la vie. Pas que j'en crois, non, c'est juste comme ça, on n'a pas le choix, alors un petit enfant, c'est moins. Non, quelqu'un qui. Et aussi, il sera mieux la Lacha. Alors, ils sont tout de suite arrivés, et le type, il parle au téléphone, alors il pose la question, voilà, c'est comme ça, est-ce qu'on l'appelle à l'hôpital, oui ou non, etc. Alors, il a dit au téléphone, et oui, c'est plus quoi qu'on a fait. Chaque fois qu'il y a une plaie ouverte dangereuse, c'est vendredi soir, ça peut s'infecter, etc. Donc ils amènent, ils sont en contact avec un taxi non juif qui vient dans le quartier, et c'est un quartier orthodoxe, voiture orthodoxe, ça se fait pas. Alors les gens regardent, ils voient une barbe, un chapeau, puis quoi, ils comprennent, voilà. Et je suis arrivé là-bas à l'hôpital, et bon, ils s'en occupent pour faire attention, parce que des fois on fait des trucs, En deux mots, il n'y a aucun problème.
J'ai posé cette question sur l'euthanasie parce que récemment j'ai entendu que le roi Shaoul s'était donné la mort en faisant semblant de tomber sur son épée pour éviter à celui qui l'avait conquis.
Ça, c'est pour échapper. Bon, on va arriver. Hein. Laisse-moi parler d'établir les choses. Après ta question, c'est déjà un point plus précis. Maintenant, donc, on doit sauver une vie. On n'a pas le droit de raccourcir la vie. Maintenant, est-ce qu'on peut rallonger la vie de façon artificielle? Quelqu'un qui souffre beaucoup. Un moment, des fois, les médecins posent la question. Voilà. On peut, en cas où maintenant, voilà, il a... tout à coup, le corps s'arrête. Est-ce que vous demandez que nous fassions une réanimation ou pas? La personne, elle est malade, incurable, elle est proche de la mort, elle souffre énormément. On n'est pas obligé de rallonger la vie. On n'est pas obligé de faire des efforts colossaux, des choses tout à fait... On peut faire, d'accord? Pour rallonger la vie de façon qu'elle va continuer à souffrir, quelque part, pour rien. On n'a pas le droit de raccourcir la vie, mais on n'est pas obligé non plus de rallonger. On doit rallonger la vie quand on peut rallonger pour que la vie, la personne vive bien. Mais si elle souffre énormément, je précise énormément, et que de façon artificielle, on va faire des actions pour rallonger sa vie, c'est pas obligatoire. Par exemple, quelqu'un qui depuis 10 ans, il est légumes, d'accord, il n'y a plus rien. On peut pas, comme je dis, on peut pas enlever la prise. Il y a des moments où pour les soins, on doit, oui, enlever la prise. Ça arrive. Alors attention, tout ce que je dis maintenant dans ce cours-là, je précise, rien de ce que je dis doit être pris en tant que loi pratiquement à pratiquer. Parce que la question m'était posée juste maintenant, je n'ai pas lu les bouquins dernièrement, je dis de mémoire, je peux me tromper, on joue avec la vie. Rafa, il a dit, à cause de ça, après, quand on arrive là-bas, on me dit, Rafa, c'est toi l'assassin, moi l'assassin, mais oui, tu as dit ton cours, 20 personnes l'ont vu, 20 ont agi comme ça, et à cause de toi, ils ont tué des personnes, d'accord? Donc dans tous les cas, on demande la question à une autorité rabbinique compétente. Donc, par exemple, si je me souviens bien, pour les soins, par exemple, quelqu'un qui a déjà un légume depuis longtemps, il y a un moment où des fois on enlève la machine pour recharger ou pour faire un soin, c'est pas obligé de la remettre. Dans certains cas, je ne sais pas dans quel cas, ne comptez pas sur moi. Donc le principe il est comme ça. On doit tout faire pour sauver une vie, mais pas forcément la rallonger. Quand la vie était écourtée par une chose incongrue, un accident, un incendie, quelque chose, on doit rallonger. On doit tout faire pour continuer la vie. Maintenant, si la personne, elle est malade, et il n'y a plus rien à faire, et elle souffre énormément, on peut laisser mourir normalement. On n'a pas le droit d'empêcher des soins normaux, et les médecins savent la nuance, mais on n'est pas obligé de faire des choses qui sont du genre réanimation, des trucs colossaux. D'accord ? On doit lui donner antibiotiques, tout ce qu'il faut, et on la laisse finir sa vie normalement, tranquillement.
Par exemple, si on le fait de manière active, c'est une injection ou alors...
Non, complètement interdit.
C'est actif.
Voilà.
Et de manière passive, par exemple, diminuer les traitements qui ne sont pas forcément obligatoirement nécessaires pour le maintien de sa vie. Certes, il va se dégrader.
À ce que j'ai entendu, les traitements, on doit continuer les traitements.
Et est-ce qu'on a vraiment de prier parce qu'on voit que la personne souffre?
Alors dans les cas, à propos de la prière, dans les cas où une personne souffre beaucoup, on demande à Dieu qu'il fasse ce qui est le mieux pour elle. Et Dieu saura.
Dans un cas de vieillesse ou de maladie, si la personne elle-même veut se dégrader, est-ce qu'on doit l'empêcher?
Oui, peut la laisser bien sûr, c'est du suicide. On n'est pas les propriétaires de nos propres vies. Quelqu'un qui se suicide est l'assassin de lui-même.
C'est un devoir pour nous.
Bien sûr.
Et même si justement, au lieu de...
Tu vois quelqu'un faire un péché dans la Torah, t'as le mitzvah de lui expliquer que c'est mauvais, qu'il ne doit pas agir ainsi. Non, lui, il fait le péché très grave de se tuer lui-même. C'est-à-dire, comment? Il fait ça, lui. Il se dégrade. D'accord? Bien sûr qu'on doit l'empêcher, il fait un péché grave d'assassinat.
Juste avant, on avait dit que dans un cas où vraiment on voyait la personne qui souffre, on la voit souffrir, elle veut, on peut la laisser. Il faut dire, on peut laisser sa volonté à elle.
De quoi faire?
De se laisser aller ou de se dégrader. Vu qu'elle souffre, au lieu de nous avoir ce raisonnement-là, elle l'a eu.
Ok, toi, ça ne va pas t'enfucher à toi maintenant de donner tous les soins qu'il faut. Attends, elle, à un moment, ça arrive, ce sont des malades qui souffrent. Pour moi, dit, j'en peux plus. Là, j'arrête. Et on voit qu'après, ils ne tiennent pas longtemps. Bon, alors, on a mis ça. Est-ce qu'on a mis ça de l'encourager? Je pense que oui. Et c'est après qu'on a encouragé. Elle reste découragée. Ok, on a fait ce qu'on devait faire nous. Mais la vie, comme j'ai dit, ça a une très grande valeur. Dans le cas du roi Shaoul. Le roi Shaoul, donc, a fait une guerre contre les Amalécites, contre les Philistins. Et il voyait qu'il perdait la guerre. Alors il a demandé à un de leurs soldats israéliens, donc le soldat de l'armée d'Israël à l'époque, c'est un Amalécite, mais qui était mercenaire pour l'armée israélienne, de le tuer. Alors les décisionnaires disent que c'est permis. Si quelqu'un, il a peur d'être attrapé par l'ennemi et torturé, et que par les tortures, on va lui faire des choses qui sont interdites. Il a peur, on va lui demander, je ne sais pas moi, de se procéder devant l'idole, des choses pareilles. Ou il a peur de dévoiler des noms, par exemple, de faire une chose qui est interdite. Alors, il peut se donner la mort pour éviter les tortures et faire ce péché-là.
C'est une loi.
C'est une loi. On peut toucher un mort, oui. Il ne faut pas embrasser un mort. Il ne faut pas l'embrasser. Il ne faut pas voir sa face non plus. Ce n'est pas bien pour la mémoire. Ouais.
Les yeux ouverts, les yeux fermés.
Ça ne change rien.
Donc, l'euthanasie.
Pourquoi des morts
La chose de l'euthanasie est interdite, bien sûr. Maintenant, il faut savoir une chose très importante. C'est très bien que tu en parles. Ah là là, qu'est-ce que c'est important. Je vais maintenant. Je dis tout ce que j'ai à dire. Aïe, c'est scandaleux. Il y a environ 80 ans, il y a eu dans le monde, grâce à la médecine, au progrès de la santé, on a réussi à faire qu'il y ait beaucoup moins de morts infantiles. Ça s'est appelé le baby boom. Du coup, il y a un boom, plein de babies dans le monde. Plein d'enfants. OK. Nous sommes 70 ans, 80 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le pépi boom. Le papi boom. Tu as plein de pépés aujourd'hui. Plein de vieux monsieur. Maintenant, les dirigeants des pays qui sont extrêmement non humains, carrément inhumains, et très intéressés par l'argent, il faut qu'il y ait une prospérité dans le pays, ont des choix à faire. S'occuper de dizaines de milliers de pépés qui sont tout à fait improductifs pour la société coûte beaucoup d'argent. D'abord, ils ont droit à la retraite, puis les soins. Par définition, un homme vieux, il coûte très cher, parce que c'est tous les quelques jours qu'il va à l'hôpital. Tous les quelques jours. Pardon ?
Il a pas contribué à la société, lui.
Il a contribué, bien sûr. Et même s'il n'a pas contribué, c'est un être vivant. Il est clair, et en France, en Israël, je vais essayer d'exemple, je voulais raconter, qu'il y a une hora'a, une directive de raccourcir la vie des vieux. Ça ne sert à rien. Ils sont improductifs. Il faut tout simplement faire en sorte qu'ils crèvent. C'est comme je vous le dis, mais aucun problème. C'est clair. Hein? Comment ils font ça? C'est pas compliqué du tout. Alors je connais un cas par exemple, une amie de la famille. Son père était très malade. Et les médecins ont dit ça suffit. Alors elle s'est battue. Et il y a eu un juge médical qui est venu. Elle a obligé l'hôpital à continuer. Puis après 24 ans, d'ailleurs, il s'est rétracté. L'hôpital a dit, okay, on donne des médicaments, mais enfin, on donnait un médicament qui était bon pour cela, mais il fallait donner aussi un autre pour que le corps tienne. Ils n'ont pas donné l'autre. Il est mort. Il est mort. Qu'est-ce que vous voulez porter plainte? Les médecins ont toujours raison. Les médecins ont toujours raison. Ça ne sert à rien. Tu m'appelles un autre cas maintenant. Un élève de la yeshiva ici, son père était malade, je ne sais plus ce qu'il a eu, ou une crise cardiaque, ou quelque chose comme ça. Et au bon moment, ils l'ont relâché. Sa femme dit, mais ouais, ça va, mais donnez au moins un peu d'oxygène. Non, ça va. Il est allé à la maison. Après 24 heures, il était allé aux toilettes. Quand on va aux toilettes faire les grands besoins, c'est un effort cardiaque très grand. Il sortait, il avait à peine respiré comme ça, tac, il est tombé par terre, AVC. Le temps que arrive l'ambulance, un quart d'heure, 20 minutes, il était complètement déjà. En quelques heures, il est mort. La femme m'a dit, ce sont des criminels. On laisse comme ça rentrer. J'ai fait un temps d'approche, ça sert absolument à rien. fils aussi, le frère de l'élève ici, lui a dit, ça absolument, et ça va servir, ils ont toujours raison les médecins, ils peuvent toujours dire, qu'est-ce qu'on a fait, on a vu ça allait bien, on a envoyé la maison. Et l'État a gagné beaucoup d'argent. Mon beau-père, Zichrono Livracha, est décédé il y a un an et quelques mois. Ben, un beau jour, on est très très contents. Il est venu quelqu'un à la caisse maladie, un représentant comme ça, pour voir son état, tout ça. On vous donne maintenant deux infirmières, vous pouvez appeler à n'importe quelle heure de la journée, elles sont à votre service pour votre, le père de ma femme, d'accord. Il avait un cancer, il était vieux, etc. Bon, il allait, venait à l'hôpital, allait, venait, sans cesse. Mais bon, ils ont dit, écoutez, voilà, on a un truc très bien, vous pouvez le mettre maintenant dans l'hôpital ici, à Sophie, ils vont s'occuper très bien. Bon, on a compris, en fait, c'est un hospice pour qu'il ait une mort digne, comme ça s'appelle, une mort digne. Ça veut dire, on laisse mourir sans soin. Alors, ils ont dit ça en passant, comme si vous même pas attention, puis ça fait tilt comme ça, et j'avoue, moi, je me fais attention. C'est le beau-frère, mon beau-frère, qui a compris
ça. Ils ont dit mort digne.
Hein ?
Ils ont dit le mot.
Ouais, une mort. Non, on sait qu'il est, il n'est pas bien laissé, il aura une mort digne, ils sont, voilà, très bien. Bon, du bon, il faut comprendre que ça va, le pauvre s'occupera de lui gentiment, mais on ne va pas faire des soins forcément trop poussés. Heureusement, le beau-frère est venu, il l'a sorti, il l'a mis à l'hôpital. Vous voulez un moment à l'hôpital, ils ont le bol de le voir venir tout ça, le pauvre. Ça fait deux jours qu'il n'avait pas mangé. Deux jours qu'il n'avait pas mangé. Il l'a mis là-bas, Khedamiyou, c'est la salle de... Non, l'endroit où on décide où, dans quel... t'arrives aux urgences, là-bas. 24 heures, ils l'ont laissé là-bas. 24 heures, sans manger, sans boire, avant de le monter en salle. Un homme, ça fait deux jours qu'il n'a pas mangé, encore trois jours de jeûne consécutif, un homme de 80 ans, malade, ben, il est mort après quelques jours. Il n'a pas tenu le coup. Ils l'ont tué, c'est clair.
Concernant l'avortement,
attends, laisse-moi bien enfoncer le clou là, tu vas trop vite. Et je dis ça et que les internautes m'écoutent bien, faites attention, en France c'est clair. Je me rappelle encore une autre histoire. Ça c'est l'oncle de mon gendre, médecin, mais un homme humain, d'accord. Alors, ils font la ronde à 8 heures, et les médecins passent, et il y a la nouvelle garde qui vient. Alors, ils voient un malade, 85 ans, tout ça. Alors, ils disent, voilà, l'autre médecin dit, bon, ok, ça va, quoi. Ben, il a fait son temps. Mais je comprends pas. Ben, il a 85 ans, ça va, laisse-moi tranquille. Voilà, en deux mots, ne pas soigner. Et c'est dans cette optique... Il y a des directives ainsi de l'État, c'est dans cette optique qu'on éduque les médecins, qu'on leur dit d'agir et qu'ils agissent. Donc il faut être extrêmement vigilant, savoir cela, parce que si on laisse faire, on est associé à des assassins, à Dieu ne
peut. Le gouvernement, ça apporte rien aux médecins.
Ils sont dans cette optique-là, que ça ne sert à rien. Ils comprennent que ce n'est pas bien pour la société. Un type, il a déjà vécu. La vie, ok, t'as vécu, basta, terminé. C'est qu'ils sont habitués, la première fois c'est un peu dur, puis après c'est facile. La piqûre de morphine. Il y a des doses de morphine que tu mets, tu tues la personne, tu raccourcis sa vie.
Ces gens-là, ils acceptent qu'un jour on leur fera comme ça aussi.
Ouais, tout à fait. À quoi ça sert de souffrir quand t'es malade, t'es vieux ? Fini. C'est une optique que beaucoup de gens ont, parce que pour eux, ils n'ont pas la valeur de la vie comme nous l'avons. Ils l'ont pas. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font de leur vie ? Médecin. Je vais raconter le médecin, mais un peu quand même.
Les médecins, ils se préparent comme des assassins ?
Oui.
Absolument.
C'est marqué Tov Arofim Geinam. Le meilleur des médecins, il va en enfer. La Gemara dit comme ça. Pourquoi ? Parce que forcément, il n'a pas toujours raison. Puis des fois, il. Dans le Talmud de Babylone. Quelle Gemara c'est marqué où ? Je le retrouve, aucun problème. C'est archi connu.
On m'a dit que le meilleur des médecins, il va gagner. Pourquoi ? Parce que le meilleur des médecins, il va peut-être pouvoir se dire. J'ai réussi à le guérir, c'est grâce à moi.
Ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça écrit dernièrement, encore cette semaine.
C'est grâce à mes soins.
C'est vrai que c'est marqué à cause de son orgueil, c'est juste. Mais si ce n'était que ça, alors il y aura un petit enfer. Mais combien de fois il se trompe ? Le stapler, il a un truc. Le stapler, c'est le père de Rav Kanevski. Rav Yaakov Israel Kanevski. Un grand Israël, avait Roi Hakodesh, un homme, une bracha de lui, c'était les miracles qu'il a fait. Il a dit, les gens croient que les petits médecins savent peu, les grands médecins savent beaucoup. C'est complètement faux. Les petits médecins savent rien. Les grands médecins savent un peu. C'est comme ça. Quelqu'un, il a fini maintenant médecine. Et c'est tout. Il a toujours raison. Mais non, comme quelqu'un qui a fait son bac. Qu'est-ce que tu sais après ton bac? 80% t'as oublié, lui aussi. C'est pas un ordinateur ambulatoire, d'accord? Ah, il se plante, bien sûr qu'il se plante. Le nombre d'erreurs qu'on a vu dans notre vie des médecins, mais c'est inimaginable, grave.
Le Rambam, il était médecin.
Et alors? Bon. Alors quoi, il croyait sur la Gemara? Je dis pas qu'on doit pas être médecin, il faut faire attention, voilà. Un médecin doit savoir qu'il ne sait pas grand-chose, il doit être prudent.
En vrai, ce n'est pas sur son savoir qu'on ne pas, mais c'est sur la méthodologie.
Les deux qu'il a eu. La méthodologie de croire.
Parce que comme vous avez dit, il ne savent rien après. Enfin,
voilà. Mais il a de marqué docteur, donc c'est quelqu'un.
L'avortement, à partir de combien de temps, selon l'enfant, on peut considérer qu'on a fait, enfin, on a tué l'enfant parce qu'il était apte à...
L'avortement est interdit. Mais avant 40 jours... Après la conception, dans les cas extrêmes, sous bien sûr autorisation d'une autorité extrêmement compétente, il y a des cas extrêmes où on autorise l'avortement. Après 40 jours, d'habitude non. Il y a des cas extrêmes aussi. Si l'enfant met en danger la mère, des choses pareilles, oui.
Il n'y a pas des cas où vous auriez
eu viol comme ça? Dans les cas spéciaux, dans chaque cas, il faudra demander aux autorités rabbiniques compétentes.
Si je ne pourrais pas assumer l'enfant, je sais que ça va mener à ma perte et à la sienne.
Je répète ma réponse. Dans tous les cas, contacter une autorité rabbinique compétente. C'est très délicat, c'est très difficile.
C'est des procédures administratives.
Il faut comprendre que c'est un assassinat. Maintenant, on ne peut pas dire à quelqu'un « je t'assassine parce que j'arrive pas à t'assumer ». C'est un peu difficile.
À quel moment on peut considérer que cet embryon se fait tuer?
Il a déjà une partie d'âme, c'est clair. Preuve en est.
Que,
bien sûr, que Chazal dise qu'en fonction de la pureté du couple lors de la conception, tu as une âme différente qui rentre dans l'embryon. Ça prend des parties d'âme, des petites au début, un peu plus grandes, plus grandes, plus grandes.
Ouais, la
sainteté, la pureté de la conception de l'enfant influera sur le type d'âme, et le moment aussi dans lequel ça a été fait, influera sur la qualité de l'âme de l'embryon, de la personne qui va naître. Bahou Chadonai, Amen.